Présidé par le docteur Bernard Westfeld, psychiatre et nutritionniste à Paris, le GRO, le groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids, créé en 1997, réunit des professionnels de santé de toutes écoles. Au rebours de régimes alimentaires vendus tels des recettes miracles, le GRO réintroduit en particulier le diagnostic préalable médical, singulièrement omis par ces méthodes, tant il est vrai que celles-ci sont bien souvent le produit mercantile d'une société à plus d'un égard mentalement pathogène. Entretien avec Bernard Westfeld, psychiatre et nutritionniste, auteur de Le poids et le moi aux éditions Armand Collin, au micro de Pascal Marcacci.
Docteur Bernard Westfeld, vous êtes à la fois psychiatre et nutritionniste. Vous vous intéressez via le groupe que vous avez cofondé qui s'appelle GRO, une réflexion médicale sur l'obésité. Vous m'arrêtez si je dis des erreurs. Mais est-ce qu'en soi, le fait d'être gros est un mal ?
Groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids, il n'y a pas d'erreur. Est-ce que le fait d'être gros est un mal ? C'est une bonne question qu'on ne pose pas tellement souvent, tellement ça paraît évident qu'on a intérêt à être mince et que c'est plus facile et que c'est plus conforme et qu'on va être plus heureux et que la minceur est une promesse de beauté, de santé, de bonheur, de réussite, ce qui est loin d'être toujours le cas. Alors est-ce qu'être gros, c'est un mal ? Parfois, c'est un bien. Pour prendre les choses dans le sens du paradoxe. Parfois, c'est un bien. On voit de nombreux sujets chez lesquels une surcharge peut être bénéfique, déjà, parce que c'est quand même une espèce de mise en réserve d'énergie, certes, mais aussi de cuirasse, nous permettant de protéger de quelques autres. C'est quand même quelquefois une symbolique de puissance qui permet de s'affirmer en face de quelqu'un ou en face d'un groupe. Et puis, pour rester dans l'idée d'une surcharge un peu plus classique, le fait d'anticiper en quelque sorte sur des difficultés à venir, le fait d'avoir fait des réserves, c'est un peu ce que font les oiseaux migrateurs pendant une grande migration. Ils font quelques réserves pour pouvoir parcourir 3-4 000 km à tire-d'aile. Et on voit effectivement des gens qui ont besoin de thésauriser en prévision ou en parallèle de difficultés rencontrées. Et on peut penser que dans ces cas-là, le corps lui-même adopte une sorte de défense autoplastique contre des événements ou des circonstances éventuellement hostiles. Donc c'est pas toujours un mal d'être gros, mais la médecine s'est emparée de la surcharge et de l'obésité qu'elle a largement stigmatisée, à la remorque d'ailleurs d'une stigmatisation sociale qui préexistait. Elle l'a stigmatisée, si j'ose dire, tous azimuts, alors qu'on pourrait presque dire qu'il y a des bons gros, des mauvais gros, et qu'il n'est pas plus mauvais d'être un peu gros ou un peu enrobé ou un peu plump que d'être mince. Loin de là, d'ailleurs, tout est affaire d'âge, d'environnement, d'activité et de visée d'une manière générale. Qu'est-ce qu'on vise finalement ? Qu'est-ce qu'on vise ? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, dans un monde soi-disant libéral, il y a une espèce de quête de conformité. On pense être original, on pense être libre et malgré tout, être normal, y compris chez les adultes, c'est être comme l'autre. Alors que traditionnellement, être normal et être comme l'autre, c'était plutôt un axiome de l'adolescence, être comme dit Philippe Jamet en circulation extracorporelle, c'est-à-dire que la normalité de notre propre corps passe par le corps des autres. Et cette quête de la minceur et cette espèce de « thin is beautiful » comme disent les Américains, comme je dis souvent qu'ils savent de quoi ils parlent, hein, parce qu'avec 50% d'obésité, ils peuvent revendiquer la minceur, est devenue une espèce de dictature, une espèce de terrorisme alimentaire, une espèce de compte plus ou moins mal ficelé par la sécurité sociale qui tente à montrer à quel point ça coûte cher d'être gros en termes de dépenses de santé. Et le pire, évidemment, dans tout ça, c'est que c'est vrai. Ou du moins, c'est comme tout le reste, c'est partiellement vrai. Et c'est partiellement faux. C'est partiellement vrai parce que c'est vrai qu'on est plus à l'aise dans un corps mince, mais est-ce que les femmes au XVIIe ou au XVIIIe siècle qui pouvaient mettre leurs grosses fesses dans des robes à paniers, est-ce qu'elles étaient si malheureuses que ça ? Est-ce que les hommes d'ailleurs n'adoraient pas les femmes avec des grosses fesses, comme le montrent toutes les Vénus callipyges d'Europe et surtout d'Afrique, et surtout ces Vénus de Malte par exemple, et d'autres Vénus, qui sont toujours représentées comme ayant des caractéristiques qu'on appelle gynoïdes en médecine. Donc ces grosseurs localisées, ces dysmorphies, comme on les appelle aujourd'hui en médecine, ont pu être des critères de beauté à une époque où critères de beauté et de fécondité étaient largement confondus. Et ça a été le cas, à mon avis, à toutes les époques, sauf la nôtre. Sauf la nôtre à partir du moment où il y a eu cette montée du féminisme, à partir des années 50, 60, où les femmes sont parties à la conquête du pouvoir, et cette conquête du pouvoir, dans un premier temps, elles l'ont conçue comme étant la conquête du pouvoir masculin, donc il fallait prendre les attributs masculins, et il fallait pouvoir revêtir en particulier un pantalon. Une majorité de femmes qui sont vraiment des femmes féminines, des femmes gynoïdes ou des femmes hyper-gynoïdes, elles ont du mal à rentrer dans un pantalon pantalon de toréador, même si elle voudrait avoir une poitrine à la Jane Mansfield et un pantalon style pantalon de toréador. Donc elles veulent avoir des petites fesses, elles veulent avoir des gros seins, ce qui est quand même antiphysiologique et irréaliste.
Les patients viennent vraiment vous voir pour des raisons de plastique et pas de santé ?
Évidemment. On voit bien d'ailleurs qu'il y a des seuils dans ce domaine. C'est-à-dire que, bien que j'aime pas trop me référer à l'index de masse corporelle, qu'on appelle IMC, qui est le poids en kilo sur la taille en mètres au carré, on admet que la normale c'est entre 19 et 25. Pour des IMC 19 à 25, on est normal. Entre 25 et 27, on est en léger surpoids. Entre 27 et 30... 29,9, on est en surpoids net, et à partir de 30, on est obèse. Et quand on compare ces chiffres-là avec les chiffres que donnent les statistiques en matière de morbidité ou de mortalité, c'est-à-dire en termes de complications diverses, on s'aperçoit que jusqu'à 29, globalement, on a globalement des risques qui sont de l'ordre de 1,2 si on peut comparer à 1 pour des sujets dits, entre guillemets, normaux. Et dès qu'on passe à 31, on arrive à 1,8 ou 2. C'est-à-dire que pour beaucoup de pathologies, que ce soit des pathologies osseuses, articulaires, ou bien cardiovasculaires, ou bien encore métaboliques, le risque double à partir du moment où on arrive dans la zone d'obésité, puisque l'obésité est définie à partir d'un IMC qui est de 30. Grosso modo, c'est 80 kilos pour une femme d'1m60. Mais à 75 kilos, il n'y a pas beaucoup plus de risques. Il y a même des gens qui n'en auront pas. Et à 83, 85 kilos, il y a beaucoup plus de risques. Donc il y a un effet seuil là qui est assez net et qui correspond assez bien à cet indice de masse corporelle, également appelé indice ou index de Kettley.
Y a-t-il des méthodes qui vous mettent franchement en colère ?
Oui, alors vous parlez de ma colère face aux méthodes largement médiatisées en matière de régime, d'amaigrissement. Bon, d'abord, il faut savoir que ça a toujours fonctionné comme ça. Il n'y avait pas des magazines en kiosque du temps des Grecs, mais ils recherchaient déjà la pilule miracle, donc c'est pas un phénomène nouveau. Et puis on a vu à toutes les époques des techniques parfois folles, comme le Joe Ryring qui avait été décrit il y a une trentaine d'années en Australie, où il s'agissait de visser les mâchoires. Et quand on vissait les mâchoires d'un groupe de sujets, on s'apercevait au bout de 2-3 mois qu'ils maigrissaient. Et que ceux qui maigrissaient le moins, c'est ceux qui réussissaient à s'alimenter quand même. Et quand on regardait de près leur dentition, on s'apercevait que c'est ceux qui avaient des dents écartées et qui avaient réussi à faire passer un peu de nourriture entre les dents. Comme quoi, effectivement, quand on mange pas du tout, on maigrit. Et ça veut pas dire qu'il faut pas manger pour maigrir, c'est quand même une très mauvaise idée. Mais ça a quand même été une idée médicale, une idée particulièrement sadique, de vouloir fixer les mâchoires des gens. Et je pense que ça a été fait d'ailleurs avec la complicité des patients eux-mêmes, qui ne demandent que ça. Ils sont pris dans une espèce de masochisme, quelquefois. Un masochisme expiatoire. Il s'agit d'expier les fautes qu'ils ont commises, le péché de gourmandise. Et donc, si on leur inflige ensuite des tortures, ils trouvent ça normal. D'ailleurs, c'est une vieille idée en médecine que quelquefois, il faut accepter des remèdes de cheval pour guérir. Et puis, il ne faut pas oublier que quand on met des gens au jeûne quasiment complet ou au jeûne sévère, c'est assez bien supporté parce que le jeûne lui-même entraîne une modification du métabolisme avec la fabrication par le corps de corps qu'on appelle cétonique, c'est-à-dire d'acétone, et que cette acétone, cette cétose dans l'organisme entraîne une anorexie. Donc c'est très bien supporté pendant un mois, deux mois, enfin si on ne meurt pas avant. Si on prend par exemple 50 grammes de viande et 100 grammes de lait en poudre, on peut vivre 20 ans comme ça. Mal, en perdant ses dents, ses cheveux, etc., mais on peut vivre. Et en n'ayant pas faim. D'ailleurs, moins on mange, moins on a faim. Donc le fait de jeûner, ce que faisait, je crois, Helmut Kohl régulièrement en se rendant dans une clinique bien connue en Espagne, mais il y en a une aussi en Allemagne, des cliniques où on vend très cher des lits et des séjours, la nourriture qu'on donne, puisque précisément on donne à peu près rien. Mais ça permet à ces gens-là, qui sont plutôt gros, de faire une cure d'expiation et en même temps de rajeunissement. Dans jeûne, on n'est pas loin de l'idée de rajeunissement, ne serait-ce que par consonance. On voit bien qu'il y a quelque chose là qui s'associe dans notre esprit et dans notre vocabulaire.
Il y a Weight Watcher, il y a la méthode Dukan. Il y en a vraiment qui vous mettent plus hors de vous-même que d'autres. Hein.
Oui, alors je pense qu'il faut quand même donner une petite explication avant de vous répondre. Vous citez les méthodes Weight Watchers, Dukan, Cohen ou autres. En fait, elles me mettent toutes en situation de révolte, comme beaucoup d'aspects de la médecine d'ailleurs. À chaque fois que la médecine c'est un bien grand mot pour ces méthodes, mais à chaque fois qu'on s'attache à proposer une thérapeutique qui vise à traiter les conséquences d'un mal sans s'occuper des causes, alors qu'on pourrait prendre en compte les causes, ça me révolte et effectivement ça me met en colère. Aujourd'hui, on traite l'hypertension artérielle sans s'occuper des causes. Il y a parfois des causes qu'on peut découvrir et traiter, ne serait-ce que pour en citer qu'une, la sténose, rétrécissement de l'artère rénale, pour parler un langage simple, ça entraîne une hypertension et si on opère l'artère rénale, il n'y a plus d'hypertension. C'est dommage de prendre des médicaments toute une vie et encore de maltraiter une hypertension artérielle qui pourrait être d'origine rénale. De la même façon, dans l'obésité, il faut savoir qu'une fois que l'obésité est constituée depuis longtemps, ça veut dire que les cellules adipeuses, les adipocytes se sont multipliées, que ces adipocytes contiennent beaucoup de graisse, c'est-à-dire beaucoup de triglycérides, ça devient irréversible. C'est-à-dire même si au départ, la constitution de l'obésité constitue un symptôme comportemental, à l'arrivée, la surcharge adipeuse devient une authentique maladie, irréversible. Ou partiellement irréversible. Donc on pourrait être tenté de dire, ben voilà, il faut vider les adipocytes, il faut donner un régime sévère qui pourrait être bien supporté. En réalité, les choses ne se passent pas comme ça. Bien sûr, il y a des tas de cas où on arrive après la bataille, mais il y a beaucoup de cas où on peut apercevoir que à 20 ans, ils ont connu une phase dépressive sévère, qu'ils ont eu des médicaments qui donnaient faim, que du coup, ils avaient maigri, qu'après, ils ont beaucoup regrossi, parce qu'ils sont sortis de la dépression, parce qu'ils ont pris des médicaments qui donnent faim, qu'on appelle orexigène, et que tout ça a constitué une obésité contre laquelle ils ont cherché à lutter, plus ils ont lutté, plus ils ont pris du poids, et finalement ils ont pris 30 ou 40 kilos excédentaires. La raison profonde de l'élément dépressif, du noyau dépressif, n'a pas été abordée. Par exemple, une séparation, un deuil, notamment ce qu'on retrouve souvent, quelque chose qui se situe sous le signe de la perte, d'une manière générale, et c'est bien ça qui est au cœur même de l'affect dépressif et de l'état dépressif. Donc il y a des gens qui vont constituer une obésité comme ça. Au début, c'est un problème presque psychologique ou psychosomatique, puis ça devient un problème organique. Il y a des gens qui... Moi, je vois beaucoup de jeunes femmes qui sont relativement normales ou minces, qui font 60 kilos pour 1m65, et qui, sous l'effet d'une mère qui a connu ses heures de gloire en étant starlette ou vague mannequin, ne supportent pas d'avoir une fille un peu ronde, surtout à la préadolescence ou à l'adolescence, et qui vont mettre cette fille au régime. Cette fille va accepter le régime quand elle a 7 ans, 8 ans, 12 ans, puis vers 12, 13 ans, elle va devenir boulimique. Elle va elle-même se mettre au régime, elle va intérioriser la mère interdictrice, la mère qui visait dans la minceur un prolongement narcissique d'elle-même, et elles vont se soumettre à des régimes quasi permanents qui vont aboutir à des pathologies compulsives et boulimiques, et donc à des séries de troubles alimentaires. Et en période de troubles alimentaires, ces filles-là vont beaucoup grossir, sauf si elles se font vomir. Et puis quand elles vont décider de maigrir, elles vont perdre 10 ou 15 kilos, et puis elles vont en reprendre. Et au fil du temps, on va assister à des yo-yo ascendants, et on va aboutir quelquefois à d'authentiques obésités, mais qui ne seront pas forcément les mêmes que des obésités génétiquement programmées, et où il était difficile, dans un environnement de pléthore alimentaire dans lequel nous sommes, d'échapper à un destin d'obèse quand on est une famille d'obèses et quand on est génétiquement programmé pour être obèse. Ce que je veux faire là, en 2-3 minutes, c'est de brosser un tableau de 3 types d'obésité, dépression, culte de la minceur ou génétique, pour montrer que ce sont des itinéraires différents, mais que face à ces itinéraires différents, la plupart des médecins, et plus que des médecins, des gourous médiatisés, propose finalement le même régime pour tout le monde, sans s'occuper des facteurs déclenchants, pérennisants, aggravants. Et ça me gêne beaucoup parce que pour moi, c'est un non-respect de l'humain et je supporte pas.
Comment réintroduire tout simplement le fait d'être bien dans sa peau? Si on arrive à ressembler à soi-même, c'est peut-être pas si mal.
C'est pas si mal, mais c'est difficile à une époque où normal aujourd'hui, c'est être comme l'autre. Donc il y a une espèce de mimétisme, une espèce de quête de conformité, un peu comme à l'adolescence, en tout cas dans une société adolescentrique, où on parle d'adolescence d'ailleurs, et où Tony Anatrella avait publié un bouquin en 87 ou 88 qui s'appelait « Interminable adolescence » et en sous-titre « Les 12-30 ans » pour montrer à quel point aujourd'hui on était dans des adolescences prolongées, si bien que à partir du moment où être normal c'est être comme l'autre, il faut être comme la figure de mode qui se trouve affichée un petit peu partout, et toutes ces images viennent de surcroît bloquer notre imaginaire, parce que plus il y a d'images, moins on est capable d'être libre, d'être seul, de s'auto-stimuler imaginairement, si on peut dire. Et donc, ce sont des gens qui ont en permanence besoin d'être occupés, d'être excités sur un plan sensorimoteur, au détriment d'une authentique pensée personnelle, symbolique, mentalisée. Et c'est ce qu'on observe aujourd'hui comme structure psychologique prédominante, c'est-à-dire des gens qui ont du mal à exprimer leurs émotions, leurs affects par des mots, et qui ont recours à l'agie, donc aux troubles alimentaires, à l'addiction, et qu'il faut traiter comme tel, parce que si on réintroduit pas du symbolique et de l'imaginaire, la vie est terriblement pauvre. Donc je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais on n'a pas besoin d'être une figure de mode ou d'être une star pour vouloir être comme les autres. À partir du moment où on est dans une norme terroriste, il faut être comme les autres.
Radio Éthique vous recommande la lecture de l'ouvrage « Le poids et le moi » aux éditions Armand Collin, signé par Bernard Welsfeld. Ce dernier cite dans l'interview un livre de Tony Anatrella, « Interminable adolescence, les 12-30 ans ». Ce livre est édité aux éditions du Cerf.